Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance et sa garantie de financer les études supérieures de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Notre sujet du jour dans Priorité Santé associe développement des apprentissages, éducation, technologie et bien sûr la santé. Nous allons en effet parler de l'impact des écrans dans leur diversité sur nos vies et en particulier sur les premières années de l'existence. Des écrans partout, tout le temps. Ils prennent de plus en plus de place, accaparent de plus en plus de temps, téléphone, tablette, console, ordinateur, téléviseur. Nous allons nous interroger ensemble sur le pouvoir de ces écrans, sur le développement de nos enfants et surtout de la façon des pistes pour prévenir les risques potentiels de ces objets connectés sur les jeunes. Est-ce que l'exposition aux écrans peut modifier le développement des tout-petits? Certains troubles et retards constatés par l'entourage, la famille, l'environnement éducatif peuvent-ils directement être attribués à cet usage précoce? À partir de quel moment faut-il se poser des questions? Et qu'est-il possible d'entreprendre pour libérer les enfants de cet enfermement, de ces chaînes numériques? Des questions que nous allons poser à nos invités au cours de cette émission. Bien sûr, comme tous les jours dans Priorité Santé, vous avez la parole pour témoigner, pour demander des conseils aux spécialistes à votre écoute sur la page Facebook de l'émission et à notre numéro le 33 84 22 75 75. Développement des tout-petits, troubles et retards constatés dans les apprentissages, acquisition du langage, observation de certains gestes ou comportements qui posent question. Tous ces thèmes, on les retrouve dans votre ouvrage « Les tout-petits face aux écrans ». Docteur Annelise Ducanda, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin de PMI, protection maternelle et infantile, membre du collectif Surexposition écran. Votre livre est publié aux éditions du Rocher. Questionnement et problématiques sans frontières. On retrouvera en ligne de Guinée le docteur Ali Ratou Camara, pédiatre à l'hôpital national Ignace Dine de Conakry. Et puis on parlera aussi dans cette émission de l'activité physique essentielle, y compris quand on est en situation de handicap. On le constate à l'occasion des Jeux paralympiques de Tokyo. Et c'est vrai aussi pour la journée paraopale de demain dans le nord de la France, autour du site du Centre de rééducation et réadaptation de Berck-sur-Mer. En fin d'émission, on va donc donner la parole à Boris Guyot, enseignant en activité physique adaptée au Centre Jacques Calvé. Il anime cette initiative sous le signe du sport pour tous et pour toutes.
Priorité santé sur RFI.
Une grande question à comment protéger les tout-petits des écrans, constat, solution. Et on va le voir aussi dans cette émission, une forme de dimension polémique de cette cause qui est au fil des ans devenue pour vous votre cause, on peut dire aussi une forme de combat. Docteur Annelise Ducanda, est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme une lanceuse d'alerte?
Plusieurs personnes me considèrent comme une lanceuse d'alerte. Si je peux être utile aux parents et aux familles, si je peux alerter sur les conséquences graves que je constate des écrans sur les tout-petits, écoutez, je serais très heureuse d'être une lanceuse d'alerte.
Souvent, on emploie ce terme quand il est question de public, de santé publique. Pour vous, aujourd'hui, ce problème, c'est une question de santé publique?
Alors, c'est pour moi une question essentielle de santé publique. Ce n'est pas que pour moi, de plus en plus de gens le disent, c'est une question de santé publique. J'irais même jusqu'à un fléau de santé publique. Évitable et réversible.
Ce que vous expliquez, c'est très simple, même si certains le contexte, certains en doutent, certains freinent vos prises de position, c'est qu'en dessous d'un certain âge, toute exposition à un écran, c'est excessif, c'est inutile et c'est même néfaste. Ça veut dire, on oublie les écrans au moins jusqu'à 2 ans.
Exactement. C'est le message qu'il faut passer et marteler. Ça sert à rien. Enfin, c'est presque inutile de faire une campagne qui va durer 2 jours sur toute l'année. Les écrans sont tellement rentrés dans nos vies, dans la vie des parents de plus en plus jeunes. Ils sont nés avec les écrans et des enfants qu'il faut vraiment le marteler tous les jours. On n'est pas pour bannir les écrans. Je les ai utilisés beaucoup pour mon livre et je les utilise beaucoup pour mon travail. Il faut les bannir de la vie des enfants. Et pour les parents, il faut apprendre comme on ne va pas allumer une cigarette sous le nez d'un bébé. Et au départ,
on le fait plus, ça s'est fait jusque dans les années 70, mais on a appris.
Voilà, le tabac, on a mis 30 ans. Mmh. Eh ben, j'espère que ça va mettre moins de temps. On n'allume pas un écran dans la pièce où se trouve un petit de 0 à 2 ans.
Parce qu'on croit qu'il n'y a pas de conséquences, et vous le dites, les écrans, hein, vous l'écrivez, ne répondent à aucun des besoins fondamentaux des tout-petits. Et puis sur ce livre, il y a un bandeau sur lequel on peut lire « L'épidémie silencieuse », au-delà du marketing. Quand vous parlez d'épidémie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cela se traduit dans les chiffres?
Alors, cela se traduit tout à fait dans les chiffres, puisque la Direction Générale des Affaires Scolaires, hein, qui dépend du ministère de l'Éducation nationale en France, a donné les chiffres du handicap de 2010 à 2018 des enfants en situation de handicap de 3 ans à 11 ans. On a une augmentation de 24% des troubles intellectuels et cognitifs, 54% des troubles du psychisme, 94% des troubles du langage. Ça fait une augmentation de 300% en 10 ans des enfants en situation de handicap. Et quand je pose la question aux psychologues scolaires et aux enseignantes, elles me disent qu'il y a 22% des enfants en difficulté dans les écoles. C'est exactement ce que j'avais constaté dans les écoles et les crèches de Viry-Châtillon. 220 enfants pour 1000 petites et moyennes sections.
En région parisienne,
en région parisienne, oui. Et quand on pose la question précisément des écrans, alors les professionnels qui posent la question retrouvent 98% de ces enfants surexposés aux écrans. Donc, si vous voulez, ça fait 167 000 nouveaux cas par an en France d'enfants de moins de 6 ans surexposés aux écrans. Et pour comparer, hein, le syndrome d'alcoolisation fœtale, qui donne aussi des troubles et des dommages au cerveau, mais cette fois-ci irréversibles, hein, c'est 8000 cas par an. Et le syndrome du bébé secoué, 176 à 416 cas par an. Donc, or là, pour ces deux syndromes, il y a une prévention importante, une grande illustration dans le carnet de santé. Donc, on est vraiment face à une épidémie. Les chiffres sont épidémiques.
Est-ce que c'est parce qu'il y a un meilleur repérage, un meilleur diagnostic, davantage d'enfants observés qu'on a ces chiffres, ou c'est parce qu'il y a une réelle augmentation stricte et concrète?
Alors, certains disent que c'est uniquement parce qu'on a on les repère mieux, on les intègre mieux à l'école, puisque c'est les chiffres de l'école. Peut-être qu'on les intègre mieux, mais c'est certainement pas le seul facteur, puisqu'il n'y a pas du tout d'augmentation des troubles auditifs, visuels, viscéraux et moteurs. Mmh. Seuls les retards de développement et les troubles du comportement.
Ça touche un secteur particulier.
Ça correspond à ce que dit l'OMS dans des études récentes, qui dit que dans le monde entier, le fléau numéro un, le problème numéro un de santé publique, ce ne sont plus les maladies infectieuses dans le monde, c'est les troubles mentaux. Mmh. Et elle donne le chiffre, de 1 sur 5, 20% d'enfants avec des troubles mentaux. Ça correspond tout à fait justement à ce qu'on décrit.
Des chiffres recueillis dans le milieu scolaire, docteur Dukanda, mais qui alerte le plus souvent sur ce type de troubles et à quel âge? Sont des parents qui s'inquiètent? Sont des instituteurs qui ne comprennent pas? Est-ce que c'est même en crèche des éducatrices, des puéricultrices, des assistantes maternelles qui disent « ce petit enfant, il s'énerve, il tape dans ses mains, il fait... » Vous décrivez, hein, il fait le papillon comme ça avec ses mains, des gestes inhabituels et puis des gestes qui sont parfois rapprochés d'autres troubles, des troubles du spectre de l'autisme, avec parfois des comparaisons, encore une fois pas d'amalgame, mais des comparaisons. Quelle attitude doit alerter un parent?
Alors, c'est tout à fait ça. C'est les professionnels de la petite enfance et des écoles maternelles qui dépistent 90% des enfants en difficulté. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas dire qu'on intègre plus les enfants handicapés, puisque le handicap se révèle à l'école, si on peut parler de handicap. Pourquoi handicap? Parce que tous ces enfants en difficulté, dont je décris les troubles dans le livre, ont besoin d'une aide humaine à l'école. La maîtresse, quand l'enfant il court partout, il répond pas à son prénom, il est agressif, elle a besoin de ce qu'on appelle une AVS, un auxiliaire de vie scolaire. Et pour obtenir l'AVS, on fait un dossier MDPH à la maison des personnes handicapées. Alors, pour dépister les troubles, il faut connaître le développement typique et entre guillemets normal d'un enfant, ce que n'ont pas forcément comme connaissance les parents. C'est pour ça que je suis pour une information vraiment dès la grossesse, dès les premiers temps de l'enfance, sur les besoins fondamentaux de l'enfant, sur le développement de l'enfant, pour que les parents puissent s'alerter. Donc c'est parfois les parents, c'est souvent les professionnels de crèche et de l'école.
Alors, des parents à qui on va donner la parole tout à l'heure, je voulais revenir sur les très nombreux travaux que vous citez dans votre livre, parce qu'un certain nombre de professionnels ne sont pas en phase avec votre analyse, et vous réclamez justement plus d'études scientifiques très sérieuses hein, pour étayer tout ce que vous développez. Docteur Annelise Ducandat, on peut précisément citer une étude qui a été publiée en juin, l'INSERM, hein, donc c'est très sérieux, des chercheurs qui ont travaillé sur le lien entre un faible développement du langage et le fait que la télé soit allumée en permanence pendant les repas, à un moment important d'échange s'il en est dans la vie familiale. Le constat, c'est qu'une fréquence plus élevée du visionnage, ou même la télé simplement en bruit de fond, hein, on dit j'allume la télé comme il y a quelques dizaines d'années on allumait la radio, comme quoi des fois c'est bien de revenir aux vieilles habitudes avec la radio, eh bien ça donne de moins bons résultats en matière de langage. On comprend, hein, il faut de l'interaction.
Alors il faut de l'interaction, c'est indispensable. Et l'interaction, c'est la base de l'envie de communiquer et qui va permettre le développement du langage. L'enfant, il se met pas à parler comme ça tout de suite. Oui. D'abord, c'est une communication par les yeux, par les gestes, par l'affection que les parents procurent à leurs petits. C'est ce qu'on appelle la création de la relation d'attachement qui est primordiale. Et ce plaisir de communiquer, eh ben, l'enfant va le faire naître et développer grâce à ses parents qui le regardent, comme j'ai dit, puis qui le font à eux, etc. et qui lui parlent. C'est très important. Les parents pensent que si l'enfant entend un écran qui parle, alors il va développer le langage. Oui. Et des études très intéressantes ont montré qu'il faut que ce soit un adulte qui regarde l'enfant et qui lui parle pour que les mots prennent du sens et qu'il développe son langage. C'est l'étude de Rachel Barr aux États-Unis en 2005, très intéressante. Ils prennent 42 enfants de 2 ans. Ils prennent 21 enfants qui regardent à travers une fenêtre une personne qui explique qu'elle cache un doudou sous un canapé et 21 autres enfants de 2 ans qui regardent la même scène à travers un écran de même taille que la fenêtre. Et quand il faut rentrer tous ces enfants dans la pièce pour rechercher le doudou, 100% des enfants qui ont vu la scène à travers la fenêtre retrouvent le doudou sous le canapé et seulement la moitié des autres enfants. C'est ce qu'on appelle le déficit de transfert ou le déficit vidéo. Quand vos enfants regardent un dessin animé en préverbal, les premières années de la vie avant l'élaboration du langage, les mots ne veulent rien dire.
On voit, mais on ne comprend pas.
Exactement. Il n'y a pas de sens.
Alors, il y a une question de Fatima. On va prendre un auditeur en ligne dans quelques instants. Fatima du Sénégal, elle demande, docteur Ducandat, combien de temps peut-on laisser des enfants devant des écrans sans répercussions sur leur santé ?
Alors, il y a de nombreuses études. Ça, c'est très important parce que beaucoup de gens, un petit peu de nos détracteurs, disent « mais il n'y a pas d'études ». Les études, elles se sont multipliées depuis 2018 et on en est à plus de 5100 études sur la relation entre surexposition des écrans et troubles. Ouais. Alors, ces études montrent qu'entre 0 et 6 ans, les troubles peuvent apparaître à partir de 15 minutes par jour. Ouais. Et entre 6 ans et 18 ans, à partir de 30 minutes ou 1 heure. Donc, vous pouvez laisser votre enfant 15 minutes par jour, mais je préconise aucun écran de 0 à 2 ans parce que c'est la base de la structuration de l'architecture cérébrale où tout se joue. Mais il peut avoir un petit dessin animé à partir de 2 ans, même si le mieux, c'est le moins. Aucune activité sur écran n'est intéressante pour un tout petit.
Docteur Ducandat, on va tout de suite donner la parole à un premier auditeur.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Alors, c'est donc en RDC qu'on vous retrouve. Joseph, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Alors Joseph, votre fils n'a pas encore 2 ans. Expliquez-nous pourquoi vous vouliez nous parler de son cas aujourd'hui, de ce petit.
Oui, c'est Joseph Soula depuis Kinshasa en RDC. Mon fils aura 2 ans au mois de septembre. Mm-hmm. Et il a commencé à regarder les écrans, c'était la télé, vers 6 à 6 mois. Avec le temps, il était de plus en plus accro au téléphone. Et donc, il aime trop vraiment regarder les dessins animés à tout moment. Et quand on lui prive de ça, des fois, il pleure. Et des fois, nous aussi, ça nous arrange. Des fois, quand il pleure, ou bien on a autre chose à faire, on lui met juste les dessins animés, on lui met la télé ou bien au téléphone. Et il est occupé à ça et il ne dérange pas. Alors, ma préoccupation, j'avais des questions. La première est que, est-ce que le fait qu'il soit trop accro aux écrans peut avoir des conséquences sur le développement de son cerveau. Et la deuxième question est que ça peut aussi avoir des conséquences sur sa vision. C'était ça mes deux préoccupations.
Sur sa vision. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plus le développement du petit enfant. Il commence à parler, votre petit garçon. Il dit des petits mots, maman, papa.
Oui, il parle des petits mots, maman, papa, des lots, pipi, des petits mots.
Est-ce que vous trouvez qu'il se fâche beaucoup, qu'il fait beaucoup de petites crises ?
Pas tellement.
Au niveau du sommeil, il est comment?
Bon, quand il regarde trop la télé, il dort trop aussi. Mm-hmm. Donc, des fois, au lieu de se réveiller très tôt, il se réveille des fois 9h, 10h.
Et vous regardez avec lui la télé ou il est tout seul quand il regarde? Comment ça se passe à la maison?
Alors, si je ne suis pas là et que sa maman est occupée dans les travaux, il regarde seul. Et quand nous, on est là, quand on essaie de mettre nos émissions, informations et consorts, il pleure, il ne fait pas. Donc, on est obligé de mettre ses chaînes préférées, dessins animés, Pee-wee et consorts, pour qu'il soit calme. Et là, on est obligé de regarder avec lui.
Vous êtes obligé par un petit de 2 ans. C'est ce que vous êtes en train de m'expliquer, Joseph, c'est ça?
Oui.
Il est fort, ce petit. Hein. Il dit donc qu'il est costaud, bon. Ce petit de 2 ans. Je vais donner la parole au docteur Dukanda. J'ai juste une petite question. Vous lui racontez des histoires de temps en temps à votre petit garçon. Il s'appelle comment déjà?
Il s'appelle Nathanaël.
Alors Nathanaël, est-ce que vous lui racontez des histoires de vos parents, de vos grands-parents?
Bon, il a encore une année, il aura 2 ans le mois prochain.
Oui, mais est-ce que vous lui racontez des histoires? Je répète, on sait qu'il y a des contes magnifiques, surtout en RDC. Il y a des contes avec toutes ces histoires d'animaux, les histoires du fleuve. Vous lui racontez des histoires?
Non, pas vraiment.
Pas vraiment. Ok, je donne la parole au docteur Dukanda.
Alors Joseph, merci pour votre témoignage qui ressemble à des centaines de témoignages que j'ai depuis 2017, depuis que j'ai fait ma vidéo sur Internet. Et on voit dans quel un peu engrenage sont pris les parents. Alors il faut bien comprendre que le cerveau humain est attiré par ce qui nous donne le plus possible de plaisir avec le minimum d'effort. Exactement ce que nous procurent les écrans, chez nous les adultes et chez votre tout petit. Donc votre enfant, il va adorer les petites comptines, les musiques. Et là, c'est la télé, mais quand c'est des écrans interactifs, c'est encore pire, parce que la tablette récompense l'enfant quand il a bien fait son petit puzzle. Donc ça lui donne du plaisir, donc il va toujours vouloir ses écrans. Ça stimule dans le cerveau de votre garçon le circuit de la récompense, qui a un phénomène d'emballement, et il va pas pouvoir s'en passer, il va toujours réclamer de plus en plus de plaisir. Donc ça, c'est pour ça qu'il pleure si vous lui enlevez. Et il faut savoir aussi que, contrairement à ce que certains disent, ce n'est pas une activité comme un autre. Ce n'est pas équivalent à tout ce que vous pouvez proposer comme autre activité, jeu ou autre, à votre petit garçon. Ça stimule l'attention réflexe involontaire où il est obligé un peu de regarder. Si vous êtes dans une pièce où il y a un écran, ça bouge, ça fait du bruit. Le cerveau est attiré. C'est ce qui, dans le cerveau humain, permet d'échapper au danger ou de chasser. Donc votre enfant, il a du plaisir, il est capté, fortement capté, et il peut plus s'en passer. Alors oui, il y a des conséquences sur la vision. On sait qu'il y a la lumière bleue qui détruit, maintenant ça a été démontré par plus de 600 études dans le rapport de l'ANSES 2019, ça tue les cellules de la rétine et ça donne de la myopie. Hein, 90% des enfants myopes en Chine, et les études montrent que c'est en relation avec le fait qu'ils ne sortent pas assez dehors, et notamment qu'ils sont sur les écrans, c'est très important. Le cerveau de votre petit garçon, il a besoin d'interactions humaines et de découvrir le monde avec tous ses sens. Donc à chaque fois que vous le mettez même 5 minutes devant un écran, c'est du temps manqué, c'est du temps raté d'apprentissage et de développement de son cerveau. Donc il va pleurer. Il faut absolument que vous lui supprimiez tous ces écrans.
Il va y avoir un petit moment difficile. Hein. Donc voilà. À la maison, on peut dire que en général, ça dure combien de temps?
Alors, des parents me décrivent aucun moment difficile. Il se met à jouer tout de suite. Et le maximum que j'ai entendu, c'est 3 semaines. Mais en général, c'est 5-6 jours. Votre enfant, il va se rouler par terre, peut-être même se taper la tête contre les murs. Et bien sûr, vous le prenez, vous le sortez dehors, vous trouvez autre chose. Mais ne cédez pas. Il va avoir une crise de sevrage. Et quand il est sevré, il y aura même un écran dans la pièce qu'il ne s'en occupera pas. C'est indispensable pour le développement physique, psychique et émotionnel de votre petit.
Joseph, est-ce que vous vous sentez prêt à arrêter l'écran pour le petit Nathanaël?
Oui, je suis prêt pour le bonheur de mon fils. Donc, je ne peux que faire ça.
On comprend bien. Il est là, Nathanaël. Il nous signale sa présence. C'est sa première résistance. Mais je pense qu'avec sa maman, vous allez être plus persévérant. Vous pensez que sa maman aussi est bien décidée? Parce que dans la préparation de l'émission, vous nous avez indiqué qu'il y avait un petit frère ou une petite sœur qui allait arriver. Donc, c'est vrai que c'est le bon moment pour arrêter.
Bon, nous allons nous efforcer. Hein. On est obligé de faire ça.
On vous dit bon courage et bonne suite pour toute votre famille à Kinshasa. Excellente journée, docteur Dukanda. On va se retrouver pour d'autres questions de parents tout de suite après ce titre de Jean-Baptiste Freedom.
back and I let go with so much freedom. Freedom. I'm gonna get, 'cause it's my freedom.
I love how you talk, you speak in my language. The way that you act, you can't contain it. Is it the show?
Priorité Santé sur RFI, nous continuons de parler des tout petits face aux écrans, titre de votre livre publié aux éditions du Rocher. Docteur Anice Duganda, toujours avec nous en direct en studio, médecin spécialiste de cette question de la surexposition aux écrans. Et on donne tout de suite la parole à une maman en ligne de Dakar. On retrouve Kumba. Bonjour Kumba.
Bonjour.
Alors, vous aussi, vous avez constaté que votre petite était, hein, si on peut dire, collée au téléphone. La petite a quel âge ?
Elle a 5 ans.
Et ça dure depuis quand, Kumba ?
Il y a 3 ans de cela.
Alors, quand vous dites accro, ça veut dire quoi précisément ? Quel usage ? Quel écran ? Quel type de programme ?
Voilà, elle aime le téléphone.
Oui.
Et la télévision. Voilà, alors, la télévision, elle aime regarder les dessins animés.
Et le téléphone, elle regarde quoi sur le téléphone, sur votre téléphone ?
Le téléphone, elle envoie des messages vocaux. Sur WhatsApp. Voilà, elle regarde des photos et des vidéos.
Donc, il y a le coq aussi qui nous accompagne. On salue le coq. Et je voulais vous demander, sur ce téléphone, il s'agit de votre propre téléphone. Comment est-ce qu'il arrive entre ses mains ?
Voilà, c'est mon propre téléphone. Quand je suis occupée, quand je laisse le téléphone sur la table, elle vient prendre le téléphone. Voilà, elle se connecte, elle envoie des messages vocaux soit à son père ou à ma maman. Elle reconnaît le photo, le profil de photo.
Alors, si vous nous avez téléphoné, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous inquiète. Vous avez constaté quoi chez votre petite fille ? Elle a changé de comportement ? Elle fait des colères ?
Oui, elle fait des colères. Quand je casse mon téléphone, voilà, elle cherche la télécommande pour regarder la télé. Si je veux regarder le journal, par exemple, elle pleure, elle dit comment je veux regarder les dessins animés.
Et quelle est la question précise que vous souhaitez poser à notre invité, au docteur Anne-Lise Duganda Kumba ?
Ma question est la suivante. Comment faire pour éviter, pour qu'elle puisse se concentrer ? Parce qu'elle doit aller à l'école en octobre, Inch'Allah. Maintenant, j'ai commencé de l'encadrer, mais elle ne se concentre pas. Quand elle se concentre 15 minutes, elle dit je suis fatiguée, là je vais regarder les dessins animés, ou bien elle prend mon téléphone.
Donc on peut parler dans ce cas-là un petit peu, docteur Anne-Lise Duganda, bien évidemment pas diagnostic à distance, mais des petits problèmes d'attention chez cette petite fille. Et puis un problème aussi pour s'imposer, pour Kumba, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller ? S'imposer en douceur, bien sûr.
Alors, c'est toujours pareil, c'est compliqué de voir son enfant faire des grosses crises. On a l'impression qu'il n'est pas bien, qu'il souffre. Et on a tous envie d'avoir nos enfants qui sont calmes et qui ont l'air bien, ce qu'ils laissent paraître devant les écrans. Alors déjà, Kumba, je vais vous donner des conseils. Déjà, vous ne serez pas une mauvaise maman si vous supprimez ou diminuez fortement les écrans et que votre petite fille pleure. C'est comme pour Joseph tout à l'heure. Vous lui dites que c'est votre téléphone. C'est pas le sien, qu'éventuellement elle peut être en Skype avec son papa s'il est loin, avec des temps très limités donnés avec vous et uniquement pour ça. Donc il faut absolument que vous mettiez un code sur votre téléphone. On met en sécurité les produits dangereux pour faire le ménage. Vous faites pareil pour votre téléphone, c'est aussi dangereux. Et si jamais vous le laissez sur la table, vous mettez un code. Vous allez lui expliquer que vous l'aimez très fort. À 5 ans, elle comprend très bien que c'est du poison pour son cerveau, même si elle adore ça. Et que comme vous l'aimez, vous la protégez de ce qui n'est pas bon pour elle. C'est quasiment sûr que les troubles de la concentration sont dus à ça. Alors, à cet âge, je recommande, les études montrent 15 minutes par jour, mais tous les jours, elle va attendre ces 15 minutes. Moi, je recommande 30 minutes le mercredi, samedi, dimanche, et aucun le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Vous l'inscrivez sur un papier, peut-être avec des petites icônes, etc. Et c'est une charte, on a une charte familiale sur notre collectif, ça marche très bien en consultation. Vous définissez le temps d'écran et elle n'a pas le droit d'y déroger. Et
on si fait elle un pleure, petit contrat, pleure. C'est un accord.
C'est un contrat, c'est un elle peut signer, même une petite croix, un petit dessin. Vous signez, maman et papa. Et vous allez voir que, comme on le disait tout à l'heure, ça va durer environ une semaine où elle va pleurer. Et après, vous allez vraiment être... très heureuse, elle va finalement s'en passer et faire autre chose. Et toutes les autres choses qu'elle va faire va lui permettre de développer sa concentration, dont vous disiez tout à l'heure qu'elle était perturbée, et toutes ses autres compétences. Et vous allez vraiment, ça va vous encourager, vous donner du baume au cœur pour continuer. Mais il faut absolument lui limiter à 30 minutes, 3 fois par semaine.
Voilà, et surtout si elle rentre à l'école, tout ça, ça va l'aider. Kumba, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est une bonne chose, vous devez appliquer ça là.
Des solutions concrètes pour aller mieux à la maison. On vous souhaite une excellente journée. On part pour Abidjan, retrouver une dernière auditrice. C'est Karine avec nous. Karine, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors,
bonjour.
Votre petite fille, elle aussi, n'a pas encore 2 ans. Qu'est-ce qui vous préoccupe par rapport à notre sujet du jour, donc avec ces écrans, Karine?
Voilà. En fait, après certaines recherches faites sur Internet, j'ai appris qu'il fallait éviter aux enfants les écrans avant l'âge de 3 ans.
Oui.
Donc, du coup, moi, je voudrais demander, est-ce que c'est vraiment vrai? Et si, à partir de 3 ans, je pourrais faire comme les autres et offrir des tablettes à ma fille parce qu'elle a commencé très, très, très tôt à être habituée aux écrans.
Elle a commencé à être habituée aux écrans, ça veut dire qu'elle voit quoi aujourd'hui comme écran? Elle a accès à quoi?
Elle a accès à la télévision, elle a accès malheureusement à mes téléphones portables.
D'accord. Et est-ce qu'elle a accès à des petits livres cartonnés aussi qu'elle pourrait manipuler et à des jeux où on imbrique des choses? Elle fait d'autres choses quand même, pas que votre téléphone.
Bien sûr, elle fait d'autres choses. Ouais. Là, elle a l'occasion de les déchirer si c'est du papier. Voilà, de taper un peu sur ses jouets parce que c'est une enfant qui est très, très, très active. Donc, j'essaie. En tout cas, pour le maximum de lui éviter les écrans. Mais vous imaginez que si elle est avec moi, par exemple, au salon, que je suis en train de regarder la télé, bien évidemment, parmi mes filles, c'est pareil. Elle regarde la télé comme maman regarde la télé.
Et vous disiez tout à l'heure, offrir une tablette à ma fille comme les autres. Est-ce que vous ressentez une forme de pression, Karine, un petit peu, faire comme tout le monde, parce que sinon, vous sentez que vous n'offrez pas les mêmes chances à votre petite fille?
C'est ça. C'est surtout moi pour préserver mes téléphones. Parce que je vous assure qu'elle m'en a déjà fractionné 2. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, du coup, je me dis que si j'ai la possibilité, à partir d'un certain âge, de lui offrir une tablette adaptée à son âge, rien que pour elle, moi, ça me soulage. Là, du coup, je pense que mes téléphones vont moins souffrir.
Alors, docteur Alice Ducanda, je vous vois réagir. Je sens que vous allez un petit peu décevoir les attentes de Karine, mais augmenter celles de sa fille et ses possibilités.
Alors, vous allez offrir le plus beau cadeau à votre petite fille, c'est de ne pas lui donner d'écran avant 6 ans. Parce que les écrans, c'est comme une drogue, c'est comme l'alcool. Pour les protéger, il faut les habituer à s'en passer et leur offrir autre chose. Toutes les études vont dans le sens de l'effet délétère des écrans sur les capacités scolaires, les compétences scolaires, le bien-être, enfin tout ce que je décris dans mon livre. Les enfants qui vont s'en sortir le mieux dans la vie, et c'est déjà le cas, on le voit dans les études, c'est ceux qui auront le moins d'écran possible, le plus tard possible, contrôlés par les parents. Donc, comme la maman précédente, vous n'avez pas envie qu'elle casse votre téléphone, et je comprends bien, vous lui dites que c'est votre téléphone, elle n'y touche plus, vous la mettez en hauteur, vous le cachez, votre téléphone, et vous mettez un code dessus. Elle ne prend pas votre téléphone et ne lui offrez surtout pas de tablette parce que, comme je disais, c'est un produit addictif qui donne beaucoup de plaisir. Donc entre la tablette et n'importe quel autre jeu classique, elle va choisir la tablette. Or, aucune activité sur écran va être aussi riche pour le développement de l'enfant que n'importe quel jouet classique en interaction avec les autres. Donc vous allez lui faire le plus grand cadeau possible en ne lui donnant pas de tablette. Et il faut lui expliquer. Pareil, à 3 ans, l'enfant peut très très bien comprendre. Pas d'écran, ça veut dire qu'elle fera plein d'autres choses. Alors que s'il y a de l'écran, elle va délaisser ses jouets. Tous les jouets que vous lui offrez.
Vous en pensez quoi, Karine ?
C'est très difficile.
Ouais. Parce qu'il y a une pression. Il y a une pression.
Oui. Oui. La pression, ce n'est pas de forcément faire comme les autres, mais c'est d'être moins coupable. Parce que moi, surtout, je me dis qu'on refuse les écrans par rapport au développement cognitif de l'enfant, à sa vision et tout. Donc, du coup, c'est déjà un poids même pour moi de la laisser regarder la télé. Mais je m'éloigne toujours. Tant qu'elle ne va pas se planter devant le téléviseur, je l'en éloigne. Mais le souci, je me dis, jusqu'à 6 ans, est-ce que je pourrais? Imaginez, ça c'est très difficile. Mais je vais essayer déjà. Mmh. Je vais essayer. Sinon, comme je le dis, j'évite au maximum. Elle a ses jouets, elle a ses images cartonnées et tout. Mais moi, bizarrement, avec l'écran, moi, je pense que son développement au niveau du langage a beaucoup évolué.
Il a évolué grâce à l'écran ou grâce aux échanges que vous avez avec elle?
Grâce aux émissions qu'elle regarde à la télé, on va dire les clés d'esprit. Elle essaie de prononcer, elle prononce peut-être un peu mieux. C'est mon avis, hein.
Mais alors, c'est difficile d'observer et d'en tirer des conclusions, docteur Dukanda.
Alors, voilà. Il y a beaucoup de parents qui pensent que l'enfant a beaucoup appris avec les écrans. Donc là, je n'ai pas votre petite fille en face, hein, mais surtout en préverbal, peut-être à partir de 2 ans, comme je disais tout à l'heure, 2-3 ans, on peut commencer à regarder 20 minutes à certains moments. Et l'écran, les mots qu'il entend peuvent commencer à avoir du sens, mais pas avant 2-3 ans. Mais des fois, il répète des mots. Ils vont, sur un imagier, vous donner du vocabulaire. Mais par contre, sur la richesse, la subtilité du langage, des émotions, etc. Les enfants ont une grande pauvreté. Et les institutrices me disent, ils ont plein de vocabulaire. Mais quand je raconte une petite histoire, ils ne peuvent rien en dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils pleurent? Donc attention au piège des écrans dont on pense qu'ils développent le langage. J'ai entendu autre chose. Vous regardez beaucoup la télé, madame. C'est une habitude aussi, peut-être depuis que c'est très addictif aussi pour nous les adultes. Hein. Et donc ça vous arrangerait aussi qu'elle ait un peu de tablette et c'est compliqué pour vous. Alors je sais que c'est très 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 difficile, mais il faut absolument pas laisser la télé allumée plusieurs heures par jour quand on a un tout petit. Alors c'est pas facile parce que ça veut dire que soi-même on doit se priver de notre plaisir en présence de nos enfants. Donc c'est pour ça que c'est compliqué dans une société où on vous pousse beaucoup devant les écrans, mais il faut les limiter pour vos enfants. À partir de 2 ans, elle peut regarder 30 minutes 3 fois par semaine, mais ne lui offrez pas sa tablette. Éventuellement, vous achetez une tablette que vous lui donnez 30 minutes le mercredi et que vous reprenez après.
Pas à libre disposition, c'est voilà. Ça. Karine, une dernière réaction?
Je pense que déjà, je suis rassurée. C'est parce qu'elle se lasse même des écrans rapidement. Ça veut dire que quand elle est devant la télévision, certes, elle regarde, mais au bout d'une heure, elle s'en lasse et elle préfère retourner à ses jouets. Donc moi, c'est surtout pour mes téléphones que j'avais peur. Parce que quand elle a accès à mes téléphones, là, voilà, ça devient comme un jouet. Elle touche à tout et voilà. Et le téléphone, l'écran du téléphone de se rapprocher un peu plus d'elle que l'écran de la télévision. Vous comprenez? C'était là, en fait, ma crainte. Oui. Sinon, si c'est pour la télévision, elle s'en lasse. Elle préfère jouer, comme on dit, aller déchirer ses images cartonnées, faire un peu tout ce qu'elle peut faire à son âge et tout. Oui. Mais l'écran de la télévision, je peux dire que là encore, c'est géré.
Oui, c'est très important ce que vous dites. Les écrans tactiles, mobiles, sont encore plus dangereux et immersifs et isolent plus l'enfant de son environnement que la télé. Mais tant mieux si au bout d'un moment elle s'en lasse. Bon, 1 heure, c'est un petit peu beaucoup.
Un petit peu beaucoup, surtout qu'elle n'a pas 2 ans, on l'a dit. Merci beaucoup. Merci Karine pour cet appel. On part tout de suite pour la Guinée.
RFI à Conakry, 89.9 FM.
Docteur Yalira Toukamara, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédiatre à l'hôpital national Ignace Dine. On peut dire, hein, docteur Camara, que ce problème des écrans et des enfants, on le rencontre aussi à Conakry dans vos consultations.
Bien sûr, et merci de m'avoir donné la parole. Oui, les écrans en Guinée, précisément le pays dans lequel je vis, représentent un problème de santé publique pour nos enfants. Que ce soit la télévision, les consoles de jeux, les ordinateurs, les tablettes, les écrans font partie de notre quotidien. Et donc, ils font partie du quotidien des enfants. Mais toutefois, ces écrans ont des effets néfastes sur la santé mentale, physique de ces enfants.
Docteur Camara, vous dites problème de santé publique pour vous, médecin pédiatre, mais est-ce que c'est aussi le cas dans la société guinéenne? C'est-à-dire, est-ce que les autorités en ont conscience? Est-ce que les parents en ont conscience? Est-ce que les enseignants en ont conscience?
Oui, les autorités, oui. Les médecins, nous, oui, nous sommes conscients de cette situation. Mais malheureusement, nous avons affaire à une population qui n'a forcément pas conscience de cette situation de santé publique. Mmh. Les enfants sont exposés aux écrans de façon quotidienne.
Surtout quel écran, docteur? Les téléphones, surtout?
Les téléphones, surtout pour les tout-petits, et les tablettes. Mmh. Les télévisions, quand vous allez dans les familles, même les familles moins nanties, vous pouvez trouver 3-4 écrans dans la famille. Et vous pouvez trouver, par exemple, une télé qui est allumée presque toute une demi-journée. Et vous savez que ce bruit de fond de télévision peut avoir des impacts sur la santé des enfants. Malheureusement, la population n'en est pas consciente.
Est-ce que les parents arrivent en consultation justement pour des troubles de l'attention et des troubles du développement et vous pointez la cause, vous dites là, il y a trop d'écrans, c'est vraiment à cause de ça que votre enfant a des petits retards d'apprentissage et on peut vous donner des conseils?
Oui, oui, de plus en plus, oui. Ces derniers temps, nous avons des enfants qui viennent, des parents qui viennent pour des troubles de langage, des troubles, des problèmes scolaires, des troubles de concentration chez les enfants. Et nous pensons que tous ces troubles sont liés, peuvent être liés en tout cas à l'utilisation exagérée de ces écrans. Et malheureusement, les parents ne sont pas conscients de cette situation.
Excusez-moi, docteur Camara, ils n'en sont pas conscients, mais comment est-ce qu'ils réagissent lorsque vous venez avec votre expertise, vous donnez ces explications, vous donnez des conseils, des remèdes? Comment réagissent les parents?
Des fois, ils sont étonnés. Certaines mères sont étonnées qu'on leur dise « Attention, vous avez votre téléphone que vous abandonnez avec votre petit de moins de 2 ans pendant des heures. Ça peut avoir des conséquences sur sa santé mentale, physique, sur le développement de son cerveau et même sur ses apprentissages à l'école. Parce qu'à cet âge, nous savons que ces enfants doivent avoir quelques acquisitions. Ils doivent avoir des acquisitions, par exemple, sur le langage. C'est en ce moment qu'ils doivent apprendre à parler. Vous devez avoir beaucoup plus de contact avec votre enfant pendant cet âge, et à cet âge, il ne doit pas être exposé aux écrans.
Et du côté des conseils que vous donnez aux parents, ce sera ma dernière question, docteur Camara. J'imagine qu'ils repartent avec un petit mode d'emploi. Qu'est-ce que vous leur dites?
Sur les conseils qu'on donne aux parents, on leur dit d'apprendre aux enfants de bien étudier, de bien utiliser ces écrans. Les télévisions doivent être éteintes quand ce n'est pas vraiment le moment de les regarder. Les parents doivent être le modèle en ce qui concerne l'utilisation de ces écrans, le modèle pour les enfants. C'est-à-dire quand, par exemple, une mère va s'asseoir à la télé pendant des heures en train de regarder la télé, mais ce n'est pas cette mère qui va dire à son enfant « Attention, vous voyez quoi ce que je veux dire ?»
Servir de modèle.
Servir de modèle, oui. Les consoles de jeux. Surtout pour les enfants de 0 à 2 ans, on doit bannir complètement les écrans pour cet âge, pour les enfants, je l'ai dit tantôt.
Docteur Yaliratou Camara, on entend bien en tout cas que le message développé depuis le début de cette émission par le docteur Dukanda passe très bien du côté de Conakry. Je rappelle que vous êtes pédiatre à l'hôpital national Ignace Dine. On vous remercie infiniment pour cet échange. Peut-être une réaction, docteur Dukanda, ce qu'on vient d'entendre.
Oui, donc on voit bien avec ce témoignage que c'est un phénomène mondial. Les écrans sont partout, même dans les pays qui ont été un moment moins développés que chez nous. C'est vraiment un phénomène mondial. Les téléphones, les télés, les consoles de jeux, je pensais pas qu'il y avait déjà tous les écrans qu'on avait été chez vous. Et c'est comme nous, hein, les parents ont pas été préparés. Il y a pas d'information, de campagne massive. Le message que les écrans sont dangereux pour les petits doit être martelé tous les jours, autant que les gestes barrières du coronavirus.
Alors, docteur Dukanda, en conclusion de votre livre, ce sera notre dernier point. Vous abordez une question assez délicate de la polémique, d'une sorte de confusion entre les troubles qu'on a décrits, syndrome de surexposition que vous décrivez si bien dans ce livre, et des critiques parfois très virulentes formulées par des associations de parents d'enfants concerné par les troubles du spectre de l'autisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il retourne ? Pourquoi se disputer sur une question comme celle-là alors que ce sont des choses assez, voire même complètement différentes ?
C'est des choses différentes. C'est du bon sens quand on connaît le développement de l'enfant et l'effet des écrans. Les écrans captent l'enfant, captent les parents, qui interagissent, surtout dans les premières années de la vie où se crée cette relation d'attachement, l'intérêt de la relation pour l'autre, le plaisir d'échanger. Si les parents sont trop sur leurs écrans, le petit aussi, il y a des troubles de la communication, des interactions, ce qui est la définition. Enfin, ce qui amène à ces enfants à consulter dans des centres pour en diagnostic de l'autisme. Et comme le diagnostic n'est pas, c'est pas biologique, c'est pas de l'imagerie, on passe pas un scanner. C'est des diagnostics cliniques qui reposent sur des observations qu'on rentre dans des codes, dans des tests de l'autisme. Ben ces enfants, ils codent positif pour l'autisme. Donc il y a des confusions. Et l'alerte, elle est indispensable à diffuser partout. Des enfants surexposés aux écrans qui ne communiquent pas peuvent être pris pour des enfants autistes, puisque le tableau ressemble. Alors, je n'ai jamais dit que les écrans donnaient l'autisme ou que l'autisme était dû aux écrans. C'est vraiment des symptômes qui ressemblent. Et comme le diagnostic est clinique, on peut confondre. C'est quand même très important parce que c'est pas du tout la même prise en charge. Un enfant surexposé aux écrans et un enfant autiste. Alors, les parents, certaines associations de parents d'enfants autistes ont été très véhémentes, même contre d'autres associations de parents d'enfants autistes qui sont au contraire très ouverts sur mon message. Et je tiens à dire que la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins régional a rejeté les plaintes, les quatre plaintes et a condamné même les associations à des dommages et intérêts en disant que c'est du devoir de médecin d'alerter et c'est extrêmement important de diffuser ce message dans le grand public et chez tous les professionnels de santé.
Il y aura encore beaucoup à dire, hein. Prise de conscience en tout cas que vous appelez de vos voeux des professionnels de santé comme des pouvoirs publics, parce qu'il y a encore beaucoup à faire à ce sujet. On vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation.
Merci beaucoup.
Docteur Annelise Dukanda, je rappelle le titre de ce livre, hein. Les tout-petits face aux écrans, comment les protéger aux éditions du Rocher. Et on a bien compris, on éteint tous les écrans avant 2 ans. Par contre, la radio, c'est permis.
Priorité santé.
Priorité santé.
La santé, c'est une priorité.
Sur RFI.
L'activité physique essentielle pour la santé, le sport pour tous, des phrases qui résonnent particulièrement au moment où le Japon accueille les Jeux paralympiques. On en parle sur RFI, compétition jusqu'au 5 septembre. Et après 10 000 km de Tokyo en écho à l'événement auquel participent des milliers d'athlètes en situation de handicap, une journée pas comme les autres qui se prépare au centre de rééducation et réadaptation de Berck-sur-Mer. Ça s'appelle Journée para-opale. On en parle avec vous, Boris Guyot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant en activité physique adaptée dans cette structure de la Fondation Opale, hein, tout au nord de la France, tout à côté de la plage. Le sport, ça fait déjà partie intégrante de vos thérapies. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir de particulier pendant cette journée ?
Alors, là, sur l'après-midi, c'est sur une après-midi. Le but, c'est de faire découvrir des activités adaptées, bien sûr. À des patients qui n'ont peut-être pas forcément la possibilité de le faire en dehors. Et puis, c'est aussi l'occasion de découvrir des sports qu'on peut découvrir actuellement aux Paralympiques. Donc, pourquoi pas se mettre dans la peau d'un athlète pour une après-midi.
Alors, il y a la rééducation, on voit avec les gestes répétés, avec les kinés, avec toutes ces personnes qui entourent dans le centre de soins. Et puis, il y a aussi, quand on sort de ce genre de structure, le fait de poursuivre l'activité. Et vous le soulignez, et c'est essentiel, le sport, c'est pour tout le monde. Et dans tous les cas, ça fait du bien.
Ah, exactement. Que ce soit, tout le monde connaît les valeurs du sport, hein, le sport pour la santé, bien sûr. Après, le dépassement de soi, l'estime de soi, on recrée du lien social, notamment avec les clubs de sport. Donc, nous, c'est ça qui est intéressant aussi de proposer aux patients de continuer dans la marche sportive pour aussi garder une forme physique et mentale. Et puis, comme je viens de vous l'énoncer, c'est aussi intéressant à tout point de vue, pour la santé.
Est-ce qu'il y a aussi un travail de fond, on va dire, là, d'un point de vue plus psychologique, pour lutter contre certains clichés? Parce que certains peuvent être résistants en disant « je vais tellement mal que le sport, c'est fini pour moi ». Est-ce que vous avez le sentiment, à l'inverse, que ça passe de mieux en mieux, y compris chez les non-valides, de dire « moi aussi, j'ai mes chances d'en tirer des bénéfices ».
Ah, oui, exactement. Et c'est pour ça que nous aussi, là, par exemple, au temps de rééducation, c'est aussi un peu notre mission de dire, par exemple, je vais prendre le cas d'une personne amputée. Voilà, c'est pas parce que vous êtes amputé que la vie sportive est terminée. Il y a des adaptations possibles, il y a des lames. Vous pouvez faire énormément de choses. Et justement, le fait de poursuivre l'activité physique, que valide ou non valide, il y a toujours le côté social qui est derrière, le dépassement de soi, comme je vous le disais tout à l'heure, et puis la reconstruction de l'image corporelle qui est importante aussi. Donc nous, on est là aussi pour les aider à prendre confiance en toi et puis de les motiver à continuer cette activité.
Sur cette journée para-opale, quelle activité précise, quel sport sera proposé aux participants et aux participantes?
Alors on a 4 activités. On a le tir à l'arc, le volley assis, le tennis de table et la botte. Ils sont 4 disciplines qu'on peut retrouver aux Paralympiques et que je vous invite d'ailleurs à regarder.
Bah oui, mais le dernier, par contre, le nom, je suis pas familière avec ce nom. Décrivez-moi de quoi il s'agit en particulier.
Le boccia, pour faire un peu simple, c'est plus ou moins une pétanque qui est adaptée. C'est-à-dire que le terrain, il y a un terrain qui est délimité, son propre terrain, avec ses règles, mais on retrouve les mêmes règles à peu près que la pétanque. Donc après, bien sûr, chaque catégorie de personnes a plus ou moins besoin de matériel ou non. Mais voilà, c'est de la pétanque, on va dire.
Et pour ce qui est justement, un dernier point brièvement, sur l'image des Jeux paralympiques par rapport aux personnes que vous suivez, que vous soignez à Berck, on suit ça de très près, ça se commande. Qu'est-ce qu'on en dit quand on est soi-même handicapé et qu'on voit ces personnes qui se surpassent dans des gestes absolument extraordinaire.
Alors je pense que oui, étant donné qu'on est dans un centre, je pense que le fait d'être en situation de handicap, ça pousse davantage justement à regarder les Jeux paralympiques. Après ça peut donner justement des motivations à se lancer dans l'inscription dans un club ou pourquoi pas, découvrir des activités et se dire est-ce que je suis capable de le faire?
Et créer des vocations. On vous remercie beaucoup, Boris Guyot. Belle journée para-opale pour vous et pour tous les participants à Berck-sur-Mer. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe, Ophélie Lassen, Louise Kaledeg, Victor Hull, Stephen Elsley. Demain, on va parler des maladies psychiatriques rares, troubles délirants, parfois associés à des maladies psychiatriques, syndrome de Diogène, de l'accent étranger. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Et lavez-vous bien les mains, toujours et encore.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Sounou Assurance, qui assure les études de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
7 milliards.